Et ce chant, bien sûr, inspiré de la parole de Dieu, des versets dans la Bible, en Matthieu notamment. Et c'est cette parole que nous allons prendre pour l'ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 1. L'évangile de Jean, chapitre 1. Je suis content de voir chacun, surtout Marie-Flore. Qu'est-ce que ça fait plaisir de la revoir parmi nous. Aussi, eh ben, François, Saïda, très content que vous soyez avec nous. Nous allons examiner la fin de ce chapitre, l'évangile de Jean, chapitre 1. Souvenez-vous, si vous êtes là depuis quelques semaines, nous sommes à la découverte de Jésus. Puisque Jean, il écrit tout son évangile pour faire comprendre qui est Jésus. Et surtout, en comprenant qui il est, eh ben, de croire en lui. Et on peut se dire, Jésus, je sais qui c'est. Un personnage historique qui a vécu il y a 2000 ans. Peut-être on serait même prêt à dire qu'il est le Fils de Dieu. Peut-être on a pas mal de connaissances concernant Jésus. Peut-être on n'en a pas beaucoup. Mais Jean, lui, il écrit son évangile pour que nous sachions qui est Jésus. Et nous sommes à en ce voyage un peu de découverte en ce qui concerne Jésus. Et aujourd'hui, nous allons examiner les versets 40 à 51 de ce texte. L'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 40 à 51. Et aujourd'hui, nous allons voir cette découverte de Jésus, mais surtout comment le présenter aux autres, puisque Jésus sera présenté à plusieurs reprises par des personnes différentes ici, et cela nous aide pour notre vie aujourd'hui. Permettez-moi de lire ce texte, suivez avec moi si vous avez votre Bible ouverte, l'évangile de Jean chapitre 1, les versets 40 à 51. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie « Christ ». Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas », ce qui signifie « Pierre ». Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà, nous allons prier, remercier Dieu pour ces moments ensemble. Oui, Seigneur, nous te louons que tu nous donnes ta parole. Merci de nous avoir réunis et nous demandons ta bénédiction sur ces quelques instants que nous passons dans ta parole, que tu nous éclaires par ta puissance, que tu nous aides à comprendre ce que tu as pour nous et surtout de pouvoir le mettre en pratique afin que toi, tu sois exalté en toutes choses. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Ici, Jean, dans ce passage, nous présente un ensemble de personnages qui, pour certains d'entre eux, sont assez familiers. Il est question de André, il est question de Simon-Pierre. Alors, ce Pierre que nous allons voir dans la suite des évangiles, et même c'est lui qui a écrit les deux épîtres, quelqu'un qui ouvrait facilement la bouche, qui parlait beaucoup, mais souvent maladroitement, il s'y prenait très mal. Mais quelqu'un qui était fervent, il sera question de Philippe, il sera question de Nathanaël. Alors, en passant, lorsqu'on voit ce Nathanaël, il est probable que, en fait, ce soit Barthélemy. Lorsqu'on voit la liste des apôtres par la suite dans d'autres évangiles, on ne parle pas de Nathanaël, mais on parle de Barthélemy et c'est probablement le même personnage. Donc là, juste pour la petite histoire. Et nous voyons que ces différentes personnes sont entrées en contact avec Jésus, par des manières différentes, certes. André, avec Jean, ils ont vu Jésus avec Jean-Baptiste auparavant. Et puis, ce contact avec Jésus a provoqué d'énormes changements dans leur vie. Ils ne pouvaient pas rester indifférents face à ce contact avec Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est unique. Parce que Jésus est quelqu'un qui bouleverse. Jésus est quelqu'un qui agit également. Et comme Jean-Baptiste l'avait déjà signalé, Jésus, il est Dieu. Jésus, il est celui donc venant de Dieu. Et nous allons voir plusieurs aspects dans ces versets. En fait, on va voir cinq aspects de la présentation qui est faite suite au contact avec Jésus par ces différents hommes. Alors, nous revenons au verset 40 parce que tout d'abord, il est question d'André. André, cet homme qui apparemment était lui aussi, on va dire, assez fervent, qui avait un désir de voir son frère, donc Simon-Pierre, voir Jésus. Et il y a quelque chose de précisé dans ce verset. Alors, nous le reprenons. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et si nous descendons au verset 43, il sera question de Philippe. Et quand Jésus va rencontrer Philippe, regardez la fin du verset 43, il lui dit « Suis-moi ». Et par ces deux phrases, finalement, une des premières choses que nous voyons, c'est avant de pouvoir présenter Jésus à qui que ce soit, il faut que nous ayons une relation nous-mêmes avec lui. Comment pouvoir présenter quelqu'un d'autre si on ne connaît pas la personne ? Assez difficile, n'est-ce pas ? S'il y a un parfait inconnu qui arrive, et moi je dis, laissez-moi vous présenter un tel ou tel. Ah ok, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette personne? Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas d'où il est venu. On ne peut pas présenter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et quelqu'un avec lequel on n'a pas de relation personnelle. Puisque à travers ce mot « suivi », donc André avait suivi Jésus, et Philippe, Jésus va lui dire « Suis-moi ». Et apparemment, il le fait, puisque dans la suite, nous voyons Philippe avec Jésus. Ici, ce n'est pas simplement ce serait intéressant, ça peut m'apporter quelque chose. Je suis quand je veux, je vais suivre là, mais quand ça ne m'arrange pas trop, je ne suis pas trop. » Non, ici, on a un réel engagement de la part de ces deux hommes, André et Philippe. Et ces deux hommes, ce sont eux qui sont allés ensuite à la recherche d'autres personnes. Et c'est un des premiers principes lorsque nous suivons Jésus. Si nous connaissons Jésus comme notre sauveur personnel, il est normal d'avoir un désir d'aller le présenter à d'autres. Des personnes que nous connaissons particulièrement, collègues de travail, famille, des personnes que nous croisons juste comme ça, dans la rue, dans le cours normal de la vie. Mais il y a ce désir de présenter Jésus si nous suivons Jésus réellement. Et s'il n'y a pas ce désir de présenter Jésus à quelqu'un d'autre, est-ce possible que nous ne sommes pas en train de suivre Jésus? Si ce désir manque de présenter Jésus, si nous sommes hésitant, si nous sommes même négligents à ce niveau-là, nous devons peut-être revoir notre engagement envers Dieu. Et je me mets dans cette catégorie parce qu'il est facile de garder notre connaissance de Jésus pour nous-mêmes, de un peu être égoïste à ce niveau-là, si on veut, et de ne pas partager autour de nous en ce qui concerne Jésus, à ne pas le présenter aux autres. Nous sommes prêts à présenter tout, mille et une choses, Mais Jésus, bizarrement, on a du mal parfois. André, Philippe, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés trouver d'autres personnes qu'ils connaissaient pour leur présenter Jésus. Et à se poser la question, si nous disons suivre Jésus, si nous nous appelons enfants de Dieu, si nous disons appartenir à Jésus, est-ce que c'est le témoignage de notre vie? Est-ce que nous sommes en train de le présenter aux autres? Mais maintenant, admettons, parce que voilà, on veut le faire, Dieu nous donne ses désirs, on veut le présenter à quelqu'un d'autre, mais finalement, comment s'y prendre? Parce que souvent les gens disent « on n'a pas de temps », n'est-ce pas? Souvent, les gens vont dire « ça ne m'intéresse pas » ou « non, tout simplement ». Mais comment présenter Jésus? Qu'est-ce que ici André et Philippe peuvent nous montrer pour nous aider justement à présenter ce Jésus que nous connaissons personnellement, si toutefois nous le connaissons? Et finalement, si nous retournons au verset 41, André, lui, il va nous donner un exemple. Alors André, il avait suivi Jean-Baptiste, maintenant il suit Jésus. Et au verset 41, regardez. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Donc, c'est bien Pierre dont il est question ici. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Alors, non pas l'ancien joueur de Barcelone, non. Non, ici, c'est bien le Messie, le Christ. Littéralement, loin. Celui qui est loin. Et lorsque André aurait dit cela à Pierre, qu'est-ce que Pierre, lui, il aurait compris? Parce que ça, Messie, ça ne nous parle pas trop. Surtout si vous parlez avec des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances bibliques ou qui ne connaissent pas Jésus, on leur dit, si on va leur présenter en disant, moi, j'ai trouvé le Messie. Les gens ils vont dire, bien pour vous. et alors? Très bien, si ça vous apporte quelque chose, ok, pas de souci. Mais qu'est-ce que André finalement, il était en train de dire? Il était en train de dire à son frère que Jésus, cet homme que André était maintenant en train de suivre, était celui choisi par Dieu. Pierre, quand il entendait le mot Messie, celui qui est roi de Dieu, veut dire celui qui est choisi par Dieu. Et cet élément-là est tellement important lorsque nous présentons Jésus aux personnes. Pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas choisi de Dieu, il est le plus grand menteur de l'histoire. Il est le plus grand escroc de toute l'histoire. Parce que c'est comme cela que lui, il se présentait. Il disait, je viens de Dieu, je m'en vais vers mon Père, vers Dieu, mais je viens de lui. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens que nous croisons dans la vie voient Jésus tout simplement comme un homme historique, un grand prophète éventuellement, quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, quelqu'un qui avait de bons principes. Mais souvent, ils ne se rendent pas compte que Jésus est celui envoyé par Dieu. Et dans notre présentation de Jésus, déjà, nous devons être convaincus qu'il est choisi par Dieu. Bien sûr, ce n'est pas le hasard. Il y avait un choix délibéré de la part de Dieu. Dieu a mis à part son Fils depuis toute éternité pour venir sur la terre. Et ici, André dit, il est le Messie. Et Jean, comme il écrivait en araméen, il n'écrivait pas en grec, et ceux qui lisaient son évangile au premier siècle n'auraient peut-être pas forcément compris ce que voulait dire le mot « Messie » qu'il emploie, il fait la traduction pour eux, ce qui signifie « Christ », le mot grec « Christos », qui nous donne notre mot en français « Christ », bien sûr. Et André, la toute première chose qu'il dit à Pierre, c'est « J'ai trouvé quelqu'un qui a été choisi par Dieu ». Et pour nous, lorsque nous présentons Jésus, il faut mettre l'accent là-dessus, que Jésus ne s'est pas choisi lui-même, que Jésus n'est pas apparu juste de nulle part, s'est auto-désigné, non, envoyé, choisi par Dieu. Mais en plus de cela, Regardez le verset 42, parce que il y a un élément qui intervient ici et un peu plus tard dans le texte, parce que non seulement Jésus est celui choisi par Dieu, mais regardez les connaissances que Jésus possède. Verset 42. Et il, donc André, le conduisit vers Jésus. Donc, on a l'impression ici qu'il fallait un peu convaincre Simon, mais finalement Simon dit « Allez, je vais venir avec toi ». Et André conduit, dirige Pierre vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas ». Alors, on n'a pas d'indication que André avait déjà expliqué qu'il avait un frère qui s'appelait Simon à Jésus. Et pourtant, Jésus, en le voyant, dit ben, « Tu es Simon ». Et là, Jésus, il a raison, bien sûr. Et nous voyons plus ou moins la même chose, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude ». Et là, la question de Nathanaël, au verset 48, on comprend. « D'où me connais-tu ?» Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Par ces deux occasions, et puis par bien d'autres occasions dans les évangiles, Jésus se présente comme celui qui sait tout. Ce n'est pas le hasard qui fait que Jésus a pu trouver le nom de Simon. Ce n'est pas le hasard qui fait que Jésus savait où était Nathanaël, ce qu'il faisait le jour avant qu'il le voie. Non, Jésus est celui qui sait tout. Et lorsque nous parlons aux gens de Jésus, il nous faut nous assurer de le présenter réellement comme celui qui sait tout, comme celui qui peut tout également. Il est possible que nous donnons par moments une impression de Jésus qui est peut-être un peu moins que Dieu. Mais Jésus est réellement Dieu. Et Jésus est celui qui sait tout. Ce qui fait qu'il connaît, il est tout à fait au courant de nos circonstances, des circonstances de ceux auxquels, des personnes auxquelles nous parlons. Ici, je me mets à la place de Pierre, je me mets à la place de Nathanaël, et devant une personne qui sait tout, voilà, on est surpris. Nous ne savons pas tout, n'est-ce pas? On l'admet bien volontiers. Mais Jésus est celui qui sait tout. Et malgré cela, il nous aime quand même. C'est quelque chose que nous devons annoncer à ce monde. Jésus connaît ce monde dans tout son péché, dans toutes les pires choses, les mauvaises choses que le monde fait, et pourtant Jésus aime le monde. Le raisonnement humain pourrait pousser à croire que parce que l'homme est tellement mauvais, ben Dieu, par Jésus, il a tellement marre que finalement il laisse le monde à lui-même et le monde n'a que faire. Mais non. Jésus, avec toute la connaissance qu'il a de nous, nous aime. Et ici, lorsque Pierre et Nathanaël sont entrés en contact avec Jésus, ils se sont rendus compte que c'est bien lui qui sait tout. Il est aussi Dieu. Et lorsque nous parlons avec les gens autour de nous, quelle image de Jésus donnons-nous? Quelqu'un qui est limité? Quelqu'un peut-être qui pourrait les aider, quelqu'un qui veut tout simplement leur donner une meilleure vie? Ou est-ce que nous le présentons comme celui qui sait tout et malgré cela est rempli d'amour envers eux? Alors Jésus, il est présenté ici comme celui choisi par Dieu, il est présenté comme celui qui sait tout. Quelques chapitres plus loin, dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine qui a accepté Jésus après une rencontre avec lui est retournée à la ville. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Si vous vous souvenez, elle a dit « J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit ». Et donc, elle a présenté, elle aussi, cette idée que Jésus sait tout et pourtant Jésus l'aimait. Malgré sa vie, on va dire, de débauche qu'elle avait, malgré ses fautes, malgré son péché, Jésus l'aimait, voulait la sauver. Et à nous aujourd'hui de dire, Dieu sait tout, tout le péché, rien n'est caché à ses yeux, mais il nous aime et il veut nous sauver. Mais en plus de cela, au verset 45, nous avons un autre élément, puisque maintenant, ce sera au tour de Philippe de présenter. Jusque-là, nous avons vu André qui présente Jésus à son frère Pierre. Mais maintenant, verset 45, Philippe, après avoir fait sa propre rencontre avec Jésus, va rencontrer son frère, Nathanaël, et lui dit, regardez, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël ici présente Jésus comme celui qui accomplit les promesses de Dieu. Et pour nous, parce que nous ne sommes pas juifs, parce que nous avons 2000 ans de recul par rapport à cette histoire, nous ne sommes pas dans ce contexte, nous n'avons pas cet arrière-plan juif avec toute la loi et toutes les promesses et tout. Ceci ne nous parle pas trop. Mais essayons de nous mettre à la place d'un juif du 1er siècle. Depuis Abraham, depuis la promesse que Dieu a faite de faire une nation, de faire des choses extraordinaires à travers Abraham et sa descendance, presque 2000 ans se sont écoulés. Imaginez-vous, pendant presque 2000 ans, les Juifs attendaient le plein accomplissement des promesses de Dieu. Et ils avaient vu dans l'Ancien Testament, quand Nathanaël ici dit Moïse, la loi, les prophètes, ben là, il veut parler de tout l'Ancien Testament. Et il dit, quand Philippe dit cela, il sait que Nathanaël connaît, parce qu'ils allaient sûrement à la synagogue, avaient une connaissance, connaissaient les prophéties, tout ce que Dieu avait promis. Et maintenant, Philippe est en train de dire, après toute cette attente, voici celui qui accomplit les promesses de Dieu. Et le bouleversement dans la vie de ces hommes, lorsqu'ils ont compris que Jésus est celui qui accomplit les promesses de Dieu. Une attente de 2000 ans. Quand nous avons besoin d'attendre quelques minutes, voire quelques heures, quelques jours, nous trouvons cela long, n'est-ce pas? Mais là, 2000 ans! Croyez-moi, le peuple juif a dû se poser des questions à des moments, en disant, est-ce que Dieu réellement, il va accomplir ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va vraiment envoyer le Messie? Est-ce qu'il va vraiment nous délivrer? Et maintenant, Philippe comprend, après son contact avec Jésus, maintenant, celui qui a été promis est venu. Et de présenter Jésus, encore une fois, non simplement comme un homme historique qui a fait du bien, qui a eu de bons principes, mais comme celui qui accomplit les promesses de Dieu. Il n'est pas venu au hasard. Sa naissance a été annoncée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Son ministère, même, Ésaïe 53, présenté. Et Dieu a donné à Philippe et à d'autres de comprendre que Jésus était celui-là. Jésus de Nazareth, faisant référence à cette prophétie qu'il grandirait à Nazareth, ce qui a été le cas. C'est Philippe ici, et ainsi que Nathanaël montre une connaissance de l'Ancien Testament, bien sûr. Parce que comment est-ce qu'ils auraient pu connaître les prophéties s'ils ne connaissaient pas l'Ancien Testament? Et Philippe présente Jésus comme, oui, pas simplement celui choisi par Dieu, mais celui choisi exactement pour accomplir les promesses. Les hommes pensent que Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses. C'est Pierre qui va le dire par la suite. Mais non, Dieu n'est pas lent. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en avance. Dieu est toujours à l'heure dans tout ce qu'il fait. Et voilà comment nous devons présenter Jésus. comme celui, oui, envoyé par Dieu, mais qui accomplit. Jésus n'est pas resté passif sur la terre. Jésus a beaucoup agi dans la vie des gens. Il a agi surtout en mourant sur la croix, en ressuscitant le troisième jour pour le salut de quiconque croit. Et nous ne devons pas passer à côté du fait que Jésus est extraordinaire et doit être présenté pas simplement comme le Fils de Dieu, comme quelqu'un faisant le bien, mais quelqu'un qui a accompli les promesses. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si Jésus n'avait pas accompli les promesses de Dieu, bah Dieu serait menteur. Mais Dieu ne ment pas. Dieu avait donné un ensemble de prophéties dans l'Ancien Testament. Et si Jésus ne les avait pas accomplies, eh ben, on serait toujours en train d'attendre. Mais Jésus les a accomplies. Et voilà d'ailleurs pourquoi l'Ancien Testament est important. L'Ancien Testament nous pointe, nous dirige vers l'avenue de Jésus. L'Ancien Testament n'est pas à négliger. Et nous devons présenter Jésus comme cette personne qui accomplit les promesses de Dieu. Alors, verset 46, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Il était bien connu à l'époque que Nazareth n'était pas une ville extraordinaire. C'est une ville apparemment avec une mauvaise réputation. On se dit, mais voilà, est-il possible que quelqu'un d'aussi extraordinaire que tu me dis, et ce Jésus, vienne de là ? Et c'est la réponse de Philippe qui nous montre le quatrième principe, parce que nous devons présenter Jésus comme celui choisi par Dieu, comme celui qui sait tout, comme celui qui accomplit les promesses de Dieu, mais également comme celui qui doit être connu personnellement. Alors regardez la réponse de Philippe. Viens et vois. Ah, viens voir. Viens, vois pour toi-même. C'est vrai, moi je t'annonce ces choses, moi je suis ton frère, quand même, son frère, sa sœur, sa famille, on leur fait confiance, enfin, en général. Mais Philippe dit, tu peux venir voir toi-même. Tu n'as pas besoin de te tenir uniquement à mes paroles. Oui, moi je suis digne de confiance, mais il faut que toi, tu fasses cette rencontre personnelle. Et nous avons vu la même chose au verset 41. Ce fut lui, donc André, qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Donc il lui annonce cela, mais verset 42, et il le conduisit vers Jésus. Donc de nouveau, cette rencontre, cette connaissance personnelle, ces hommes ont présenté Jésus de leur bouche. Mais au-delà de cela, ils ont invité ces personnes à faire cette rencontre personnelle. Les gens doivent absolument entendre parler de Jésus. Mais il faut qu'ils fassent une rencontre personnelle. Ils ne peuvent pas dire, les personnes autour de nous ne peuvent pas dire, « Ah, j'ai entendu un peu parler de Jésus, alors ça me suffit. » Non. Nous devons encourager les gens à lire pour eux-mêmes la Bible, de faire des recherches personnelles, de s'assurer eux-mêmes qu'ils voient la vérité de ce que Jésus dit, de ce que Jésus est. Il ne suffit pas de s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un d'autre, surtout pour les enfants, les jeunes, parce qu'on a des parents chrétiens, ça ne fait pas de nous un chrétien, obligatoirement. Parce qu'on a des amis chrétiens. Ah ouais, c'est super, je suis entouré de gens formidables. Cela ne fait pas de nous un chrétien. Non, il faut une rencontre personnelle. Et nous devons présenter cela aux gens. Nous pouvons nous tromper, vous savez. Possible qu'on se trompe. Nous nous trompons, n'est-ce pas? On s'exprime mal par moment, n'est-ce pas? On agit mal. Parfois, même dans le témoignage, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On n'a pas toujours les réponses à toutes les questions. Ouais, mais si Jésus est... Et à ce moment-là, ce que nous devons faire, c'est tout simplement dire aux gens, viens, voix. Prendre la Bible, lisez pour vous-même. Moi, je peux dire tout ce que moi je veux. Vous savez, bien sûr, je répondrai un jour devant Dieu pour ce que je dis, mais moi, je peux raconter tout et n'importe quoi. Et les gens ne sont pas obligés de me croire, de me faire confiance. Mais lorsque je leur présente la vérité de Jésus dans la Bible, ben là, soit ils acceptent, et là, gloire à Dieu, ou soit ils rejettent, mais c'est Dieu qui rejette, et ce n'est pas moi. Ce que moi je dis, ce que moi j'annonce, les gens peuvent prendre ou laisser. Mais ce que Dieu, lui, il dit dans sa parole, ben non. Là, c'est la vérité, ça doit être accepté. Et nous devons présenter Jésus comme celui qui doit être connu personnellement. Cette rencontre personnelle. On ne peut pas se substituer à la place de quelqu'un d'autre en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne une relation avec Dieu. Et lorsque nous présentons Jésus autour de nous, assurons-nous de le présenter comme cela et pas simplement comme quelqu'un qui apprécie qu'on vient à l'église, qu'on fait de bonnes œuvres, qu'on fait de bonnes actions, qu'on ne soit pas trop méchant, mais qu'on ne le connaît pas personnellement. Non, il a besoin d'être connu personnellement. André va conduire Pierre vers Jésus. Ne le laissera pas loin de Jésus, mais va l'emmener là. Et Philippe va dire à Nathanaël, voilà, moi je te dis ceci, mais viens et vois. Tu as des objections, tu as des questions, viens et vois toi-même. Et finalement, cinquième principe, parce qu'en plus de celui qui est choisi par Dieu, en plus de celui qui sait toutes choses, en plus de celui qui accomplit les promesses de Dieu, en plus même de celui qui doit être connu personnellement, Jésus est autre chose que nous voyons à la fin de ce passage. Parce qu'à partir de verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alors ça, déjà, ce premier contact avec Jésus, ça a dû vraiment surprendre Nathanaël. Déjà que Jésus le connaisse, et puis ce qu'il dit à son sujet, ça devait vraiment le surprendre. Mais ce qui intrigue Nathanaël, c'est le fait que Jésus le connaisse. Et verset 48, il dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Voilà, nous avons déjà vu cela. Jésus montre que, en tant que Dieu, il avait cette capacité de voir les gens qui n'étaient pas devant lui. Et verset 49, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alors là, bien sûr, Jean Baptiste l'avait déjà dit, Jésus, fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Mais regardez les versets 50 et 51, parce que c'est là le principe que nous voulons retenir. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Et quelque part, c'est bien. Ce que Jésus avait dit à Nathanaël l'a poussé à croire. Gloire à Dieu. Amen. Mais Jésus va plus loin. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Quoi de plus extraordinaire de pouvoir avoir toute connaissance? Quand même, tout savoir, ça devrait être extraordinaire, n'est-ce pas? Bon, ça fait un peu peur, parce que tout savoir, ça veut dire on lit dans les pensées des autres. Et là, je crois que ça fait peur, n'est-ce pas? Lire dans la pensée des autres. Mais Jésus dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et verset 51, il continue. En vérité, une phrase qu'on verra souvent dans cet évangile, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et nous, peut-être parce que nous connaissons le passage, on sait que ça vient dans la suite et on se dit, ok, bon, c'est la réponse de Jésus. Mais si vous vous arrêtez un peu et vous lisez le verset, quelqu'un qui découvre le passage va se dire, mais ça n'a rien à voir avec ce qui précède. Là, Jésus, il dit une phrase et ça semble ne rien avoir avec le contexte, finalement. Parce qu'il dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et ensuite, bah, tout de suite après, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quoi? Non mais, on ne comprend rien là. Jusqu'à ce qu'on comprenne que Jésus, ici, probablement fait référence à l'histoire bien connue de Jacob et cette échelle où il avait vu les anges, donc, monter, descendre envers Dieu. Mais Jésus dit ici descendre au-dessus du Fils de l'homme. Donc, il parle de lui-même. Et finalement, il semble, et je suis tout à fait d'accord avec cela, il semble que Jésus est en train d'expliquer ici que c'est lui qui donne accès à Dieu. Les anges monter, descendre au-dessus du Fils de l'homme rappellent donc les anges qui montaient et qui descendaient l'échelle dans l'histoire de Jacob. Et là, c'était l'accès à Dieu en fait. Jacob voyait Dieu, avait cette vision et tout. Et Jésus reprend cette même image, cette histoire qui était bien connue, se l'approprie parce qu'il est celui qui donne accès à Dieu. Et ici, Jésus est en train de montrer le principe qu'il est celui qui donne cet accès à Dieu et qu'il n'est pas simplement venu faire des miracles, faire de grandes choses, améliorer la vie des gens. Bon, il vient faire ces choses, entendons-nous bien. Jésus a fait beaucoup de miracles. Jésus a amélioré la vie de beaucoup de personnes. Mais lorsque nous lisons le livre des Actes, bah, toute la persécution, même des gens qui sont morts, on peut dire, mais comment est-ce que ça, c'est de l'amélioration? Dans les termes physiques, ça ne l'est pas vraiment. Mais ce que Jésus est venu apporter, c'est l'accès à Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas d'accès à Dieu. Impossible de pouvoir aller vers Dieu, et nous le savons, n'est-ce pas? Mais lorsque nous présentons Jésus aux autres, il nous faut nous assurer de le présenter comme celui qui donne accès à Dieu, et sans lequel il n'y a pas d'accès à Dieu. Jésus, il est exclusif. Jean chapitre 14, quelques chapitres plus loin, Jésus va dire, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. La vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas chacun sa vérité. Qu'est-ce que je déteste cette phrase. Parce que ce n'est pas vrai. La vérité, elle est absolue. Soit quelque chose est faux, soit quelque chose est vrai. Jésus dit, je suis la vérité, mais aussi la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus se présente et il doit être présenté comme celui qui donne accès à Dieu. Et aujourd'hui, nous devons nous garder de présenter Jésus tout simplement comme quelqu'un qui améliore la vie. Vous savez, il y a eu ces mouvements qui ont dit ben, « Venez à Jésus, vous aurez une meilleure vie. » Matérielle, on entend. Ah ben, peut-être, oui. Venez à Jésus et puis il va régler tous vos problèmes. Pas forcément. Le témoignage de beaucoup, c'est une fois sauvés, ben, ils ont encore plus de problèmes au niveau humain et tout. Alors certains vont dire ben, « Mauvais échange. » Il aurait mieux rester non-chrétien. Ah non, 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 non. Parce que Jésus n'est pas venu donner uniquement la bénédiction matérielle, une meilleure vie et tout. Non, non, non. Ces choses viendront peut-être, gloire à Dieu. Mais ce que Jésus est venu apporter, c'est l'accès à Dieu. Et si on le refuse lui, on refuse l'accès à Dieu. Si on l'accepte, on accepte l'accès à Dieu, gloire à Dieu. Alors gardons-nous, lorsque nous présentons Jésus, de le présenter comme tout simplement celui qui règle les problèmes. C'est en partie vrai. Mais si nous nous arrêtons là, bah, nous annonçons mal, nous présentons mal Jésus. Et devant cette présentation, gloire à Dieu, Pierre, lui, il va suivre. André, déjà, face au contact avec Jésus, il avait suivi. Donc, il va trouver Simon, va présenter Jésus. Et Pierre, là, il suit Jésus, gloire à Dieu. Et ensuite, Philippe, bah, il rentre en contact avec Jésus, et là, il suit Jésus, gloire à Dieu, il s'engage. Et ensuite, Philippe, il va trouver Nathanaël. Et Nathanaël, lui, il va également suivre Jésus. Et chacun de ces hommes, parce que Jésus leur a été présenté, parce qu'ils ont compris qui il est, parce qu'ils l'ont accepté, leur vie complètement bouleversée. Et pour nous aujourd'hui, si nous avons compris qui est Jésus, et j'espère que oui, si nous l'avons accepté, notre vie a été bouleversée. Et maintenant, tout comme André et Philippe, il est normal que nous ayons le désir d'apporter la connaissance de ce Jésus à ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, il y a un tel manque de connaissance de Jésus. Chez les musulmans, ça va être un prophète. Chez les catholiques, oui, ils sauront plusieurs choses, mais bah, on va mettre Marie au même niveau que Jésus. Donc on l'abaisse, Jésus. Chez les témoins de Jéhovah, bah, ce sera un petit Dieu. Ce ne sera pas Dieu lui-même. Et puis on pourrait prendre toute religion, tout groupe qui ne s'aligne pas sur la Bible, et on pourrait dire, bah, voilà, il leur manque cette connaissance de Jésus. Et voilà pourquoi ces personnes ne sont pas sauvées. Si nous ne connaissons pas bien Jésus, si nous ne le connaissons pas tel qu'il est présenté dans les évangiles, impossible d'être sauvé. Impossible. Et nous, notre devoir, c'est de le présenter comme André, comme Philippe ont fait. D'aller vers des personnes et de leur dire, ben, viens et vois. Venez, voyez pour vous-même. Certes, j'expose certaines vérités, mais bah, faites des recherches. Voyez pour vous-même. Parce que Jésus est celui qui change tout. Intérieurement, il est celui qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Et nous revenons à ce que j'ai dit vers le début du message. Lorsque nous suivons Jésus, nous aurons le désir de le présenter à d'autres. Si nous avons honte de Jésus, ce qui peut arriver, si par moment nous hésitons, nous disons bah, « qu'est-ce que les gens vont penser ?» ou « l'occasion manque ?» Cela m'arrive, cela vous arrive sûrement aussi. Bah, demandons pardon à Dieu pour cela, parce que ça ne devrait pas arriver. Parce que nous suivons Jésus, si nous le faisons, si nous avons fait notre propre expérience avec Dieu, si nous l'avons reçu comme notre sauveur personnel, nous devons avoir le désir de le présenter à d'autres et de le présenter tel que nous voyons dans ce passage. Alors cette semaine, nous aurons sûrement l'occasion de présenter Jésus. Peut-être aujourd'hui, nous aurons l'occasion. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous allons faire ? Allons nous saisir cette occasion en disant bah, « je présente Jésus ». Ou est-ce que nous allons dire bah, « peut-être plus tard ». Peut-être à un moment favorable. Peut-être la prochaine fois. Ou est-ce que nous allons saisir cette occasion de présenter Jésus tel qu'il est, afin que les gens le voient, l'acceptent comme leur sauveur personnel. C'est un grand défi, mais c'est quelque chose qui est possible par la grâce de Dieu. Alors, sommes-nous prêts à prendre cet engagement ? Présenter Jésus peut-être à une personne cette semaine. Une seule personne. Il y a 7 jours entre aujourd'hui et dimanche prochain. 7 jours. Peut-être dire à Dieu, « Dieu, j'aimerais, par ta puissance, présenter Jésus à une personne cette semaine. » Dieu peut rendre capable de cela. André, ici, il prend une seule personne, son frère. Philippe, pareil, une seule personne. Ce n'est pas forcément des foules. Mais une seule personne. Est-ce que nous pouvons faire cette prière à Dieu? De dire une seule personne cette semaine. Et puis, la semaine d'après, ah ben, peut-être une personne de plus. Ou peut-être aller revoir la personne. Inspirons-nous de l'exemple de André de Philippe. Présentons Jésus, parce que nous le connaissons, présentons-le comme il se doit, et que les gens l'acceptent comme leur sauveur, tout comme nous l'avons fait si nous l'avons fait. Demandons l'aide de Dieu, parce que sans son aide, cela est impossible. Demandons son aide pour pouvoir le présenter tel qu'il le mérite. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu es venu. Merci que tu sauves quiconque vient à toi. Merci que tu nous permets de te présenter au monde. Nous reconnaissons notre faiblesse, notre hésitation. Que tu enlèves toute peur de notre cœur, toute honte, toute mauvaise pensée. Et Seigneur, que tu puisses nous permettre de parler avec assurance, de parler librement autour de nous, de te présenter à ceux qui nous entourent, qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'ont pas encore accepté comme leur sauveur personnel. Que nous puissions te voir tel que tu es dans toute ta grandeur, toute ta splendeur. Que tu nous aides cette semaine à saisir chaque occasion. Que tu nous aides à te présenter, à au moins une personne, voire plus, si tu nous en donnes l'occasion. Et Seigneur, que les gens qui entendent, que les gens qui te voient puissent t'accepter et ainsi qu'il y ait plus qui t'adorent, te louent, qui te connaissent. Et Seigneur, nous te louons d'avance pour ce que tu feras parce que nous savons que cela vient de toi, que toute la gloire, la louange puisse te revenir pour ce que tu vas accomplir à travers nous et en nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.